Bonjour à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des 3 quarts d'heure de cette équipe. Dans la première partie, on va évoquer le SFC de René Weiler qui semble enfin en phase avec son entraîneur et ça fait 3 victoires de suite après le succès à Bâle de ce week-end. Dans le quart d'heure vaudois, on parlera forcément du derby lausannois à la Pontaise, mais aussi de ce qui s'est passé pour Yverdon à Lucerne et aussi un peu de Stade Lyonnais Xamax et cette rivalité étonnante qui semble en train de naître. Dans la dernière partie, on va évoquer les Young Boys qui se retrouvent devant le défi ultime, affronter le Manchester City de Guardiola 2 fois en 2 semaines. Pour ce faire, je vais accueillir André Boschetti et Daniel Visentini du Sport Center, ainsi que notre renfort habituel de Blue Sport, Stéphane Amoruso. Bonne écoute des 3 quarts d'heure de cette équipe. Salut à tous. Daniel, je viens directement vers toi parce que pour une fois, la SFL a fait un truc bien. Alors on se moque un peu de des trucs iniques qu'ils arrivent à inventer de temps en temps. Mais là, ils ont réussi à programmer balle servette et balle servette le même jour. Il y a aussi IB Zurich féminin juste après IB Zurich masculin. Comment tu as vécu une journée comme ça? Est-ce que c'était bien?
Bah, c'était chouette, ouais. Moi, bonjour tout le monde d'abord, hein, mais je suis parti assez tôt finalement dans la matinée à Bâle. Et puis après, bah, j'ai fait mon petit pèlerinage, 3 matchs de suite pratiquement. Pour commencer, les M21 de Servette contre les M21 de Bâle, c'était à 15h, à 17h30 sur le chemin du Parc Saint-Jacques. Tu t'arrêtes légèrement sur la gauche au stade d'athlétisme où jouaient les filles. De Servette, et puis j'étais sorti de ces 2 matchs avec 2 matchs nuls en me demandant ce qui allait se passer lors du choc du soir entre le FCB et puis Servette. Et puis là, il y a eu la bonne surprise pour Servette. Ça faisait 25 ans qu'il attendait ça avec la victoire. Donc ouais, c'était chouette de voir un peu toute la famille Grenat. Il y avait par exemple le staff de Servette qui est venu voir les M21, le préparateur physique de Servette, Mathieu Degrange, qui est venu voir les filles. Il y a plein de choses très sympas comme ça. Toute la famille Grenat en déplacement, c'était chouette.
Stéphane, il n'y a pas eu une immense publicité sur ce truc, mais ouais, ça va dans le bon sens. Et puis, on voit quand même que le foot féminin gagne un peu en audience, même si c'est compliqué, que ce championnat est très loin d'être professionnel.
Oui, ben heureusement. Aussi, bonjour de ma part à tout le monde. Heureusement, puis c'est le moment, j'ai envie de dire, que le foot féminin prend une place un peu plus importante. Et puis, on l'a vu aussi avec la dernière Coupe du Monde, effectivement. Donc, c'était, il n'y a pas beaucoup de pubs, mais ça en prend le bon chemin. Et puis, on espère que ça continuera comme ça.
André, on avait eu, nous, côté vaudois, un petit avant-goût avec deux jolis matchs de Coupe de Suisse féminine. Contre Servette, ça a été un peu compliqué pour le LS, mais l'AS Lausanne Nord a donné du fil à retordre à Bâle. Est-ce que tu as l'impression que ça va dans le bon sens ou c'est... Donc, il n'y aura pas de plus gros moyens de grosse audience, ce sera toujours compliqué.
Oui, moi, ça me semble difficile, quoi, que ça décolle tout à coup. Je ne sais pas, Daniel, il y avait beaucoup de monde qui assistait à Bâle Servette féminin.
J'étais assez étonné. Il y avait quand même un petit public. Il y avait plus de personnes qui sont venues voir Bâle féminin contre les féminines de Servette que de public présent pour voir les M21 de Servette à 15h.
C'était aussi plus proche du grand match.
C'était plus proche du grand match, c'est vrai, mais il y avait quand même un petit engouement. Alors, ça tient beaucoup, sans doute, au fait que c'était le choc au sommet. Hein. C'était le premier contre le deuxième chez les filles. Alors que chez les garçons, c'était le choc au sommet, mais par le bas. C'était le dernier contre l'avant-dernier.
c'est bien, quoi, qu'il valorise un peu le football féminin. Maintenant, de là à envisager qu'il décolle vraiment et qu'il réussisse à attirer plus que quelques dizaines de spectateurs en moyenne, il y a un long travail à faire, hein, malheureusement, quoi, parce qu'elle mériterait d'avoir du monde.
Daniel, tu parlais du grand match, parle-nous-en. J'ai vu quoi, 1 heure, j'ai vu un Servette intéressant, mais c'est toujours le problème de s'étalonner face au FC Bâle, parce que c'est tellement faible, et comme je disais, c'est un paillasson pour toutes les équipes et aussi les romans, mais j'ai vu quand même un Servette assez sûr de ce qu'il voulait faire,
qui s'est pas frustré après avoir loupé pas mal d'occases et qui a fini par gagner enfin là-bas. J'ai l'impression que que René Weiler, avec le temps, avec la petite pause internationale, a réussi à mettre en place un peu ce qu'il voulait.
Alors, Servette, en allant à Bâle, sortait de deux victoires de suite en championnat. Une un peu compliquée contre Lausanne, après une première mi-temps complètement ratée, mais beaucoup de mieux après la pause. Et puis, une victoire à Lugano, qui était aussi une bête noire, où Servette a beaucoup de difficultés à s'imposer au Cornaredo. Et dans ce match-là, du Cornaredo, il y a eu pas mal d'essais, pas mal de tentatives. Et Servette a gagné à l'arrache quelque part en paniquant un petit peu sur la fin. On n'a pas vu tout ça. Donc, il y avait des sortes d'inquiétudes après la victoire contre Lausanne et celle à Lugano qui subsistaient. Il y en a beaucoup moins contre Bâle. Et le fait de dire seulement que c'est Bâle et que Bâle perd contre le SLO, etc., tout ça, ça je l'entends. Mais au-delà de ça, il y a eu un Servette très cohérent sur le terrain. Et il y a quelque chose qui se passe peut-être. Bien sûr, ça va demander des confirmations parce que rien ne se fait dans la simplicité, précisément à Servette. Mais ils sont quand même rentrés sur le terrain face à un Bâle qui retrouvait son public pour la première fois depuis le 3-0 humiliant encaissé contre Stade Lausanne-Ouchy. Et je peux vous assurer que les Bâlois et Heiko Vogel avaient autre chose en tête que ce qu'ils ont présenté. Alors, ils sont peut-être trop frébriles actuellement. Ils ont beaucoup de largesse, ils n'ont aucune intensité, aucune agressivité. C'est l'électrocardiogramme est plat à Bâle actuellement. On l'a bien vu, mais il ne faut pas utiliser ça comme une excuse pour enlever du mérite à Servette. Servette a été très intéressant en plein de circonstances dans ce match-là. Et il y a quelque chose de cohérent, des ajustements qui, dont les prémices étaient vus à Lugano, qui se sont mis en place avec le rôle de Cogna, avec plus de solidarité. Bref, tout ça pour dire que si cette victoire-là intervient 25 ans après la précédente au Parc Saint-Jacques, c'était en 1998, le 25 octobre, donc 25 ans jour pour jour presque, ben ça signifie peut-être quelque chose. C'est un petit clin d'œil du destin qui veut peut-être dire quelque chose.
Stéphane, tu sens que ce Servette est en train de ressembler à son coach? Une montée en puissance et aussi bah forcément avec l'addition des matchs, des entraînements, ça commence à coller.
Oui, ben c'est effectivement ce que je pense. Ça commence à prendre. Maintenant, ça fait une troisième victoire de suite en championnat. Alors, comme ça a été dit, ben, ils ont pu travailler plus sereinement pendant cette pause après la victoire à Lugano. Mais moi, j'ai aussi l'impression qu'en fait, René Weiler, il a gagné du crédit lors de la victoire dans le derby lémanique, parce qu'il y avait une première mi-temps moyenne, on dira, et puis il a fait des choix forts pour la deuxième, des choix forts qui ont mené peut-être avec un brin de réussite quand même, parce que le but de Coutet, ça, il faut quand même le mettre. Mais quand même, je pense que ce match contre Lausanne, ça a pu être un tournant, et maintenant, il a gagné du crédit. Peut-être que les joueurs adhèrent un peu plus à son système. On voit qu'il ne balance plus tout des longs ballons devant. Et je pense que oui, il y a plus de plans de jeu et pour le moment, ça porte ses fruits.
André, nous, on est aussi là pour ça, de commenter match après match, comme il dirait sur Blue Sport, mais de rebondir à chaque week-end. Mais est-ce qu'une montée en puissance comme ça, où tout le monde apprend à se connaître, où enfin ils ont une petite pause avec l'équipe nationale pour se régénérer, bah, c'est un peu normal dans le football?
Oui, parce que ça reste une bonne équipe. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sortent de 5 saisons avec un entraîneur qui avait un certain style. Et puis, la transition, elle ne se fait pas en quelques semaines. Il faut quelques mois. Et peut-être ce déclic, il s'est effectivement, comme je pensais, quoi, produit à la mi-temps du match contre le LS. Parce que ce n'est pas que le Servette était moyen. En première mi-temps contre Lausanne, ils étaient catastrophiques. Et puis ensuite, il y a eu cette petite révolte qui a été couronné par une victoire, ensuite une autre à Lugano, où c'est toujours très, très compliqué d'aller s'imposer. Et puis, contrairement à Daniel, qui dit avoir été surpris un peu par la victoire servettienne à Bâle, je pense qu'elle, avant le match même, elle coulait de source. Bâle n'a plus rien à voir avec l'équipe qui battait régulièrement Servette ces 25 dernières années. Et aujourd'hui, Servette est... 3 longueurs devant le FC Bâle. Ça demande confirmation, mais je pense qu'on peut être beaucoup plus serein qu'il y a 3 semaines pour l'avenir proche de Servette. Ils sont en train de prendre leur marque Et ça ne m'étonnerait pas, au vu aussi de leur calendrier assez abordable ces prochaines semaines, qui se rapproche du trio de tête, même qui figure à la troisième place d'ici peu de temps.
Alors, je ne vais pas tirer des plans sur la comète, mais c'est marrant hein, ce qui s'est passé avec René Weiler. Quand il est arrivé, il a changé tous les paradigmes qui étaient ceux de Servette avant. Donc, un Servette joueur, un Servette qui voulait de la possession, un Servette qui voulait avoir le ballon en zone 2. Avec Weiler, on a tout de suite vu une mise en place en 4-4-2 avec beaucoup de verticalité et Cognac qui regardait le ballon passer par-dessus la tête. On aurait pu se dire que finalement, l'approche idéale aurait été de se dire « Ok, je regarde ce qui marchait bien pendant les saisons précédentes avec Geiger. » Je prends ce qu'il y a de bon à prendre pour que l'équipe ne soit pas trop perturbée et ensuite je l'amène gentiment vers ce que je veux moi. La position de Valère aura pu être celle-là. Elle a été l'inverse et c'est peut-être ce qu'on voit maintenant. En fait, il y a comme un compromis qui se met en place parce que justement, Valère est arrivé avec des idées fortes dès le début. Les joueurs ont dû s'y confronter et savoir immédiatement vers quoi on allait. Maintenant, René Valère, fort d'avoir imposé ça, même si ça a été dans la douleur, même s'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau comptable en championnat, aussi dû aux blessures et au fait de la multiplication des matchs en Europe, eh bien, revient maintenant vers quelque chose de plus construit, de plus joueur. Et on voit qu'il y a une évolution dans les deux sens et qui porte ses fruits. Donc, si ça se confirme, effectivement, Servette a alors un avenir très intéressant.
Voilà, mais peut-être qu'au début, et avec le calendrier, comme tu dis, hyper chargé, avec ces matchs européens qui quand même comptaient beaucoup pour Servette de faire une phase de poule, peut-être qu'il s'est dit il fallait ce Servette un peu différent pour espérer gagner un match et se qualifier pour une phase de poule. Et ensuite, on fait quelques petits pas en arrière pour avoir un jeu un petit peu plus construit qu'on a maintenant. Oui, c'est sa manière de fonctionner, c'était dangereux. Mais j'ose espérer que ça va.
Quand tu vas à Yverdon, à huis clos, à Neuchâtel, puis que tu prends 4 buts, ou bien quand tu vas à la Pontaise contre Essello, puis que tu arraches miraculeusement un nul sur un coup franc à la dernière minute, tu le fais en jouant en 4-4-2 sans avoir le ballon, alors qu'ils avaient les moyens techniques pour imposer quelque chose d'autre. Donc il y a eu aussi une évolution dans l'idée que se fait Weiler de la possession et du jeu, quoi.
Stéphane ?
Oui, non, moi, je voulais juste revenir aussi. On peut aussi tirer un parallèle avec ce Servette New Look, avec René Weiler, avec Zurich, hein, qui, l'année passée, était champion en titre. Et puis, il y a eu un nouvel entraîneur qui est venu avec ses idées, qui a maintenu ses idées, qui a changé ce qui marchait bien, qui n'a pas forcément voulu se remettre en question. Et on a vu le résultat. Il a été viré après quelques mois. Ensuite, Boedrickson est venu. Et là, lui, il a eu l'intelligence. Alors, il est arrivé en pleine Coupe d'Europe aussi. Mais il a eu l'intelligence de se dire, OK, j'arrive et je vais remettre ce qui a marché en place. Et ensuite, je vais arriver avec mes idées. Ben là, on peut tirer un joli parallèle avec ce que fait René Weiler.
J'ai envie de vous demander quel était peut-être le facteur X sur le terrain, Daniel. Contre le Lausanne Sport, l'entrée à la mi-temps de Kuteza, que moi je trouve très bon, et c'est quand même lui qui fait beaucoup de différence, et je me demande si sa progression n'aide pas aussi de Servette à aller plus de l'avant.
Ouais, il y a plusieurs facteurs X à Servette. Il y a des joueurs qui se sentent très à l'aise et qui ont la confiance de Weiler. Weiler est quelqu'un qui donne la confiance à certains joueurs, qui la retire à d'autres. Hein. On a bien vu pour Patrick Fluquet, écarté, éjecté, il a quitté Servette. Rodelin n'est même plus convoqué. Boubacar Fofana, qui a sans doute de l'or dans les pieds, ne satisfait pas aux exigences de René Weiler, s'entraîne maintenant avec les M21 et joue avec les M21. Donc, il y a des choix forts. Il choisit aussi, par exemple, de titulariser Joël Mal, désormais, dans les buts, et Frick est sur la touche. Frick, c'est quand même le capitaine, le leader du groupe depuis 2016. Donc, ça fait, c'est des changements et des modifications dans l'approche qui sont très fortes. Mais sur le terrain, il y a effectivement, par exemple, un Kuteza, évidemment, qui est en pleine fine actuellement. Il y a aussi Alexis Antounès qui est resplendissant sous Weiler et qu'il était moins avant.
Donc lui a franchi un palier alors.
Oui, tout à fait, il a vraiment franchi un palier. Il y a un Stevanovic, donc on savait qu'il est fort, qui retrouve un petit peu ces marques maintenant et dont les automatismes avec Tsunemoto qui a été blessé lui aussi, c'est bien pour ça que le flandrois a posé problème pendant longtemps à Servette, eh bien ça fonctionne mieux. Mais il y a surtout maintenant une espèce d'adaptation défensive, tactico-défensive qui permet à Servette de mieux vivre le match sans trembler. Le fait est que lors des deux derniers déplacements, Servette gagne 2-1-0. Ça fait un grand plaisir à René Weiler. Savoir faire des deux blancs 6-as de suite, c'est les deux premiers de la saison. Il n'y en a pas eu avant. Donc, tout le temps, Servette prenait un but avant. Ça dit aussi, le facteur X, c'est peut-être cette confiance retrouvée dans le fait de pouvoir tenir un score ou de ne pas encaisser de but.
André, juste pour finir ce dernier quart d'heure, le cas des gardiens est assez similaire à ce qu'il y a à Lausanne finalement. Tu prolonges ton titulaire, ton gars qui est là depuis toujours, et tu fais jouer l'autre quelques jours après. C'est étonnant. Alors, d'un côté, tu as la confiance dans le leader de groupe qui est Jérémy Frick, mais de l'autre côté, le message, c'est que l'autre est meilleur.
Oui, mais bon, les situations sont différentes parce que autant à Lausanne, eh bien, la nouvelle hiérarchie est bien établie, c'est-à-dire que Castella va être numéro 2 jusqu'au bout. Autant à Genève, j'ai un doute, quoi. Il y a beaucoup de matchs, ils alternent maintenant de nouveau tous les trois jours. Est-ce qu'il ne va pas mettre un gardien et de temps en temps et l'autre parfois, quand tu gagnes, ça ne pose pas un problème. Le problème vient quand tu perds, quoi. Puis comme Servette est dans une bonne spirale, que la Coupe d'Europe pour Servette l'avenir va se jouer ces 15 prochains jours, eh bien pourquoi pas, quoi. Même si effectivement tout le monde te dira qu'il faut un numéro 1, il faut un numéro 2, mais à l'heure actuelle pour Servette qui a deux bons gardiens, il n'y en a pas un qui est nettement supérieur à l'autre, ça peut durer quelques semaines, mais effectivement, il devra ensuite trancher puis nommer son vrai numéro 1. Mais à Lausanne, ce n'est pas du tout la même situation.
Stéphane, toi, tu vois Frick qui va aller jouer à Tiraspol son 32 degrés jeudi.
Franchement, c'est la question qu'on peut se poser. Il faut aussi se poser la question. Enfin, je pense que Daniel en sait beaucoup plus que moi, mais est-ce qu'il est vraiment à 100% parce qu'il a quand même eu quelques problèmes physiques En fait, la titularisation de jeudi, pour moi, ça voudra dire beaucoup sur l'idée de Weiler qui se fait de ces deux gardiens. S'il remet mal, on peut légitimement se dire qu'il a peut-être pris une longueur d'avance sur Frick. Effectivement, il y a deux bons gardiens. C'est presque deux numéro 1. Enfin, c'est pas presque, c'est deux numéro 1 pour moi, mais c'est aussi quelque part un peu une surprise parce que personnellement, en voyant arriver Joël Mal à Servette, jamais j'aurais pensé qu'il puisse déboulonner Jérémy Frick. Il a fallu une blessure de Frick pour que Mal joue, et joue même très très bien. Puis finalement, il a pris sa chance, donc c'est aussi un petit peu le jeu de la concurrence. Et puis ben voilà, donc les deux sont bons, les deux délivrent la marchandise. Pourquoi est-ce que Weiler se priverait d'avoir ce choix du roi quelque part? Après, est-ce qu'il faut vraiment avoir un numéro 1, un numéro 2? Peut-être que ça a été discuté entre les deux gardiens et qu'on ne le sait pas, ou que ça va peut-être se savoir plus tard. Peut-être qu'entre les deux, la concurrence, elle est saine. Et puis, c'est cette saine concurrence qui fait que les deux se tirent la bourre.
Daniel, c'est un bon problème.
Alors, je ne sais pas si c'est un problème. En tout cas, ça peut le devenir parce que la personnalité de Frick est telle qu'il s'accommode mal. C'est un compétiteur. Il s'accommode mal du fait d'avoir été déplacé sur le banc, en tout cas en championnat. Maintenant, pour la première question, non, il n'est pas blessé. L'excuse a été donnée par Weiler avant le match à Lugano quand il a titularisé Mal en disant Frick revenait de blessure, il a joué sous piqûre à Rome voilà notamment une des raisons pour lesquelles je fais jouer Joël Mal contre Lugano. Contre Bâle, il réintroduit Mal en titulaire et Frick n'est absolument pas blessé et il ne le vit pas bien. Il l'a dit dans la tribune de Genève, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Il a dit clairement qu'il n'est pas du tout enthousiaste à l'idée d'être sur le banc, mais que ma foi, il n'a pas le choix, en gros. Il doit faire avec. C'est un peu le système Weiler. Il décide, il n'a pas besoin d'expliquer, et il n'y a pas d'explication au-delà de ça. Weiler dit, c'est toi qui joues, et il y a pas, il le prend pas, il prend pas fric à part pour lui expliquer ou pour le caresser dans le sens du poil. Maintenant, à Tiraspol, ça m'étonnerait pas que Frick soit à nouveau titulaire, parce que peut-être que dans l'esprit de Weiler, il y a l'idée de mettre Mal titulaire en championnat et puis Frick en coupe et en coupe d'Europe. C'est une hypothèse. On verra effectivement ce qui va se passer jeudi soir.
Merci l'équipe. On passe directement au quart d'heure vaudois. Alors André, oui. Une question toute bête. Est-ce que samedi, tu as eu l'impression d'assister à un match de Super League?
Un bon match de Challenge League, oui.
Voilà.
Alors, j'ai vu quelques-uns des matchs, la plupart des matchs du week-end, et malheureusement, je dois vous dire que c'était le pire. Au niveau intensité et tout, pendant 70 minutes, ça a été soporifique, et puis un peu plus animé les 20 dernières minutes, mais un spectacle décevant. Voilà, j'aimerais être aussi optimiste que Daniel pour Servette en disant que voilà, l'équipe progresse, elle est sur le bon chemin et ça va donner le tour. Mais non, j'ai de la peine à être très optimiste. Bon, surtout pour le SLO, pour Lausanne Sport, disons qu'ils ont une nouvelle fois égaré 2 points par leur propre faute. Mais pour rapidement parler du SLO, s'ils continuent de jouer sans agressivité, sans courage, eh bien, ils vont directement retourner en Challenge League. Quoi. Tous les ingrédients qui nous avaient fait aimer cette équipe en fin de saison passée et puis au début du championnat, un peu de culot, tout ça, d'agressivité saine, hein, il en faut. Quand tu as une équipe quand même sur le papier qui est un peu moins bonne que les autres, eh bien, quand il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Et je crois qu'ils peuvent s'estimer très heureux d'avoir pris un point contre Lausanne, même s'il y a eu 10 minutes au cours desquelles j'aurais même peut-être mis une pièce sur la victoire du SLO, c'est-à-dire entre la 70e minute et la sortie incompréhensible de Sanchez et la papera, comme on dit en italien, de Dani da Silva qui offre le 2-1 à OLS. Là, pendant ces 10 minutes, SLO avait pris le contrôle du jeu, était la meilleure équipe sur le terrain, mais avant et après, c'était le néant. Quoi.
Stéphane, 5200 personnes à la Pontaise, à Lausanne qui loupe un péno, qui me tape la latte, même s'il y avait Roger, il me semble. Il manque quelque chose aux deux équipes. On l'a dit, le SLO, de toute façon, ils sont là parce que les autres ont mal bossé aussi. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il manque toujours un truc. Peut-être que l'autre l'a apporté un peu au milieu de terrain, un peu plus. Mais j'ai l'impression que l'ES va devoir trouver un déclic que Servette a eu, mais que l'ES n'a pas encore eu. Et ouais, il faut aussi pouvoir l'identifier. J'ai l'impression qu'il manque vraiment quelque chose à ce ES.
Oui, alors ça, c'est une évidence. Alors, tu parlais de l'influence à la Pontaise. C'est dommage, dans ce premier derby lausannois en Super League, ça ne fait pas une très bonne pub, au contraire. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que les deux équipes ont joué, j'ai envie de dire, contre nature. Peut-être plus le SLO, parce que même Ludovic Magnin l'a dit, on attendait le SLO beaucoup plus haut, qu'ils viennent nous presser, et ils sont restés très, très bas. Et Anthony Brezza, à la pause, il leur a mis une brossée, et puis on a vu un autre visage avec les moyens du SLO. Mais effectivement, Lausanne se saborde encore une fois, mène 1-0, loupe un penalty, et puis c'est même pas un arrêt du gardien, c'est vraiment le ballon qui n'est pas cadré. Il y a ce cadeau pour Seine dont les Lausannois ne profitent pas. Donc finalement, c'est toute une succession de petites choses qui fait que finalement ça devient un gros problème. Et j'ai l'impression que Ludovic Magnin regarde aussi un petit peu avec les joueurs qu'il a à disposition. Bon, alors là, Custodio, visiblement, était un petit peu diminué parce qu'il n'a pas commencé. Il a dit qu'il mettait sur le terrain l'équipe qui avait battu Lucerne en deuxième mi-temps. Mais finalement, moi, je me demande, est-ce que cette victoire contre Lucerne n'est pas peut-être l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que ce n'était pas peut-être quelque part un faux bon résultat pour Lausanne.
C'est une victoire en trompe-l'œil.
Voilà, exactement.
On est d'accord. Si on se souvient bien, première mi-temps, Kata, ça tout le monde l'a dit. Puis ensuite, Ludo parle d'une gueulante à la mi-temps, puis une réaction magnifique. Mais je tiens à vous rappeler que pendant 20 minutes, on n'a rien vu. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune occasion de Lausanne. Et Lausanne marque 3 buts en 10 minutes sans avoir d'occasion. C'est-à-dire que c'est un coup franc, un billard et goal, et deux pénaltys, mais stupides, concédés par Lucerne. Et il se trouve devant à 3-1. Puis ensuite, il y a eu quelques occasions au compte dans le dernier quart d'heure.
Moi, j'ai une question pour toi, André. Ouais. Je me souviens du Servette-Lausanne, la victoire de Servette, mais je me souviens surtout d'un Lausanne qui était très intéressant, essentiellement par le biais d'un de ses joueurs, Sanchez, pour ne pas le nommer, et avec beaucoup de difficultés dans la justesse pour plein d'autres Lausannois, comme s'il y avait un déficit de qualité en transition précisément pour Lausanne, avec Servette qui ouvrait des boulevards en première période et Lausanne qui n'arrivait pas vraiment à en profiter, sauf quand Sanchez arrivait, lui, à avoir le ballon dans les pieds, parce que chez lui, il y a de la qualité, de la justesse et tout ça. Donc, je suis très étonné de le voir sortir, justement.
Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Contre le SLO.
Le match a tourné là. Mais je ne sais pas. Alors, peut-être que Sanchez, Ludo, estimait qu'il avait fait deux matchs avec les M21. Il était peut-être un peu émoussé, mais ça ne se voyait pas. Hein. C'est lui qui provoque le penalty quelques minutes plus tôt. C'est le seul joueur créatif qu'il y a à Lausanne. Et puis, tu enlèves ça, il y a plus grand-chose. Mais je le dis depuis le mois de juillet, le joueur qui manque au LS, qui a décidé de jouer haut en début de saison, ce n'est plus tout à fait le cas, d'être agressif, c'est un numéro 9, c'est un finisseur, c'est un gars qui est bien dans les petits espaces. Et puis hier, j'étais mort de rire quand je regarde Winterthur Saint-Gall et que je vois marqué Turquès le but de l'attaquant qui manque à Lausanne. Je ne sais pas où jouait ce Turquès la saison passée, mais ça, c'est un joueur que Ludo, peut-être, aurait dû aller chercher.
Non, tu ne sais pas où il jouait, mais tu sais où il ne jouait pas.
Hein. Ouais, non, mais c'est incroyable. Quoi. Voilà, Ludo déteste Turquès, on est d'accord. Il l'a jamais fait jouer régulièrement. Et puis, il est parti. Et maintenant, je suis très content pour lui. C'est clair que ce n'est pas encore le Turquès d'avant sa blessure. Mais ça fait plaisir de voir courir, bouger, marquer quelques buts et s'éclater, avoir du plaisir sur un terrain à Winterthur. Et c'est ce numéro 9 qui manque à Lausanne. Et là, il y a une erreur de casting grave, parce que quand tu décides de jouer haut, de presser avec deux ailiers, tu ne vas pas chercher Kalisen. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, pas du tout, c'est un joueur de contre. Et tu mets toutes tes billes sur un vrai numéro 9. Et il ne faut pas dire que c'est introuvable, il ne faut pas dire qu'on n'a pas l'argent. Voilà. Yverdon est allé dénicher Mayous en Algérie, qui est une perle. Quoi. Lui, j'aimerais le voir dans une bonne équipe qui domine, et ça serait un joueur déterminant et qui figurerait parmi les meilleurs buteurs du championnat.
Mais tu viens de résumer le truc, André. Pour ça, il faut avoir un directeur sportif qui sait où aller, qui sait où rester. Stéphane, Lausanne à Labo, qui a marqué ses buts la saison passée, mais on a vu qu'il plafonnait en fin d'exercice. Là, on voit que la Super League, c'est trop pour lui. Kalisen, on connaît ses qualités, mais on sait que c'est pas un buteur, parce que sinon, ça se verrait un peu sur…
C'est deux joueurs identiques, Kalisen. Ouais. Il doublonne. D'ailleurs, il les a mis une fois ensemble. Une fois, une mi-temps à Vevey. Et puis, il a sorti… je sais plus lequel des deux. Je crois qu'il a sorti Sen ou Labo, je ne sais plus, parce qu'il a vu que ça n'allait pas. J'en ai parlé avec lui, il m'a dit « Ouf, peut-être qu'on pourra les remettre ensemble, mais on devra beaucoup, beaucoup travailler en amont à l'entraînement. » Mais c'est vrai, et Kalisen me le disait en tout début de saison, j'avais fait un portrait de lui pour 24 heures, et il me disait « Oui, c'est vrai qu'avec Brighton, on est exactement dans le même registre, mais c'est à nous de nous adapter pour jouer ensemble. » Mais quand tu n'as pas un pléthore d'attaquants, au moins tu essayes d'en choisir deux avec des profils différents.
Les femmes, du coup, c'est au coach d'adapter son style de jeu à son équipe, ou alors est-ce que c'est à l'équipe et au recrutement de s'adapter à ce que veut faire le coach?
Bah, quelque part, moi j'ai envie de dire, si on est logique, c'est le coach qui doit donner ses idées et l'équipe qui doit s'adapter à ses idées. Mais ça doit être aussi un peu des deux. Et effectivement, quand il y a des joueurs qui ont le même profil, de joueurs qui veulent jouer mais qui n'ont pas le même temps de jeu et qui ne sont pas dans la plus grande forme de leur vie, forcément qu'on doit chercher des solutions pour essayer de casser ça. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, Labo, c'est un joueur de Challenge League. Kalisen, voilà, il est bon par intermittence, mais il est pas.
Mais la moitié des buts qu'il a mis en Super League, il n'a pas fait exprès.
Ben voilà, et puis on a encore vu ben, contre Stade Lausanne, hein, je veux dire, c'est un but qui lui est offert, mais sur toute une saison, il n'arrive pas, et c'est malheureux pour lui à être bon. Et on voit aussi ça, ben voilà, c'est des coups qu'on va chercher dans des équipes un peu moins huppées ou dans lesquelles ils n'ont pas réussi ou en Challenge League, mais ça ne marche pas tout le temps. Je veux dire, un Beloco à Lucerne, on a été chercher à Xamax, ben voilà, c'est peut-être l'exception, mais on le voit, Teddy Okou, pour le moment, à Lucerne, ben, il ne réussit pas non plus. Donc, il leur faut peut-être un peu plus de temps, effectivement, mais forcément, dans ce genre de situation-là, et surtout pour Lausanne, le temps, il n'y en a pas beaucoup.
Daniel, du coup, on est perdu comme d'habitude avec l'ELS. Il y a le problème d'un directeur sportif qui, lui, devrait identifier les joueurs idoines pour ce que veut faire Ludovic Magnin. Et maintenant, s'ajoute encore plus d'incertitude envers Ineos, qui va acheter tout soudain 25% de Manchester United. Et on apprend que quand même Nice serait à peu près à vendre. Il y a un flou là qui n'aide pas et on sait pas où ça va, quoi.
Il y a comme un flou artistique vu de l'extérieur, en tout cas, avec un président qui a été un peu parachuté sur place, avec un directeur sportif qui n'existe pas et qui, quand il existera, doit être validé par l'entraîneur Ludo Magnin. Donc, il va valider son supérieur hiérarchique quelque part. Donc, c'est une méthode de fonctionnement. On a bien vu ce qu'a voulu faire Lausanne, c'est redonner un Lausanne. Vaudois en prenant
Oui,
les
une
tours.
identité régionale, voilà.
Voilà, mais les limites de l'exercice, elles sont là quand ça ne se fait pas dans un encadrement sérieux, professionnel, avec une vision à moyen terme et à long terme. Ces problèmes-là ressurgissent. Il ne peut pas tout faire non plus, Ludo, faire le directeur sportif et l'entraîneur en même temps. Il s'en est bien rendu compte. Et maintenant, Lausanne est empêtrée dans une petite forme de sinistrose à ce niveau-là.
Parce qu'en vrai, les incertitudes avec Ineos, ça commence à s'empiler. Le directeur sportif, ça fait des semaines qu'on attend. Pire, le centre d'entraînement qui devait se faire dans sept endroits différents, qui a été repoussé à cause d'un papillon, puis maintenant on n'entend plus parler du tout. Il y a quand même pas mal de questions qui se posent.
Oui, c'est vrai, quoi. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que Ineos a mis tellement d'argent dans ce club. Je parle même pas des 20 millions mis pour le stade, quoi. On n'en tient pas compte. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui restera, mais ils ont mis en tout cas 40 millions dans le fonctionnement du club pour des résultats catastrophiques, quoi. Parce que quand ils ont repris le club il y a bientôt 6 ans, Lausanne était cinquième du championnat avec Alain Joseph et ses maigres moyens comme président. Puis en 6 ans, tu as fait 2 relégations, 2 promotions et aujourd'hui tu luttes dans un championnat à 12, hein, qui est encore plus faible que les derniers. Ben, tu luttes pour ta survie. Bon, c'est triste, quoi, mais j'ose croire que Ineos va continuer à injecter autant d'argent à l'avenir, mais surtout qu'il va changer de stratégie. Ça, je crois qu'un directeur sportif va arriver d'ici une quinzaine de jours, c'est le moment. Et puis qu'on commence à travailler de façon professionnelle et sérieuse à Lausanne. Et sans que l'investissement n'augmente, je pense que vraiment que avec ce que fait Ineos maintenant, un directeur sportif, on peut espérer avoir une équipe qui régate dans la première moitié du classement. Sur sa valeur intrinsèque aujourd'hui, moi je vois que Lausanne n'est pas loin de Lucerne, de Schaffhouse, de Yverdon, de Winterthur, tout ça. Lausanne devrait être à la lutte avec ses équipes pour essayer de se qualifier pour le tour final. Malheureusement, à la suite d'erreurs de stratégie et tout, aujourd'hui, tu te retrouves à lutter pour le maintien et être à quelques jours d'un match, mais capital déjà contre Bâle, quoi. Que ce match, si tu ne le gagnes pas, là, tu commences à être sérieusement inquiet.
Bon, comme on est très inquiet pour le LS, on va décaler deux petits vaudois quand même en troisième partie. Stéphane, je ne sais pas si tu as regardé ce Lucerne-Yverdon, une première mi-temps absolument incroyable, Lucerne qui marche sur l'eau, Lucerne, c'était le Real Madrid, deux fois le Barça. Et Yverdon a quand même réussi à ne pas craquer, à revenir au score, à montrer quelque chose d'intéressant en deuxième mi-temps. Ils ont perdu, c'est clair, mais on a vu du caractère, on a vu quelque chose.
Oui, on a vu quelque chose. Alors, j'ai eu la chance de le commenter avec Carlos Varela. Donc, j'étais aux premières loges. Alors, oui, effectivement, il y a eu deux visages d'Yverdon. En première mi-temps, ils ont été très, très bas. Ils ne sont jamais allés agresser cette équipe de Lucerne. Et quand on n'agresse pas Lucerne avec le talent qu'il y a dans cette équipe, ben, ça donne une première mi-temps comme on a vu. Et la chance d'Yverdon, c'est qu'il n'y avait que 1-0 à la pause. Parce qu'il y aurait pu y avoir 2-3, voire 4-0. Et à partir de là, on se dit, ben voilà, il y aura peut-être du changement à la pause, et il n'y en a pas eu. Il y a eu un recadrement de la part de Marco Schellibaum qui a demandé à son équipe d'aller presser les Lucernois, et on a tout de suite vu la différence. Quand on presse Lucerne, quand on presse le porteur du ballon, quand on ne les laisse pas se retourner, quand on ne laisse pas les ballons casser les lignes, ben, cette équipe de Lucerne, elle devient quelconque. Et ça, Yverdon l'a bien compris en deuxième période. Et il y a eu cette égalisation sur un premier corner. D'ailleurs, le premier corner d'Yverdon est dans un match aussi serré finalement que celui-là en deuxième mi-temps. Ben, les balles arrêtées, c'est très important. Par contre, ben voilà, on peut regretter l'énorme manquement une minute plus tard qui a permis à Tchader de marquer ce qui sera au final le but décisif. Mais on a vu du caractère, effectivement, et puis surtout, il y a eu des changements qui ont fait la différence, notamment Cespedes qui est entré, je crois, juste après l'heure de jeu et qui a complètement transcendé cette équipe d'Yverdon. Cespedes, selon Marco Schellibaum, n'était peut-être pas totalement en pleine forme après ses déplacements dans les éliminatoires sud-américains avec la Bolivie. Mais voilà, on enlève Cespedes, on voit une toute autre équipe qui n'a pas démérité quand même en première mi-temps, qui a été quand même solidaire et qui a eu un brin de chance, mais qui finalement a accroché. On a vu des longs ballons à destination de Mayus qui voulait dévier pour Tazar. Alors là, il y avait peut-être une meilleure entente à trouver, mais on sent que cette équipe qui, encore une fois, a joué avec une défense à 3, ça il faut aussi le souligner, bah, dans ce système-là, un système qui avait permis à Yverdon de battre Saint-Gall à domicile, a failli créer encore une fois un petit exploit, si on peut l'appeler comme ça, à Lucerne.
Bon, on enchaîne un peu les sujets. Daniel et André, je veux juste vous entendre sur cet extraordinaire Xamax-Nyon, une rivalité aînée dans le foutrement. Daniel, comment tu as vécu ce match
J'ai pas vu le match, donc je ne vais pas me prononcer, mais quand je lis les déclarations d'Oli Forte, alors ça me fait hurler de rire. Quoi. Sortir ça quelques mois après, c'est tout juste lamentable. C'est tout, quoi. Voilà. Et puis Xamax a surjoué pendant 2 mois. Et puis gentiment, ils reviennent à leur place, quoi. Heureusement, ils ont un petit matelas maintenant, mais il ne faut pas que cette période noire elle se prolonge. Là, vendredi, ils vont à Sion, qui est en pleine confiance, en pleine bourre. Et je me dis que si ils devaient s'incliner lourdement à Tourbillon, ça pourrait commencer de nouveau à grincer des dents du côté de Neuchâtel.
Daniel, comment tu as vécu ce on peut appeler ça un derby, on va dire ce match encore roman, où ça s'invective, où ça sort des dossiers, tout en oubliant ses propres fautes en
l'occurrence. Ouais, ça sort des dossiers un peu, des vieux dossiers. Alors effectivement, ce qu'a fait Nyon en n'allant pas à Brûle, c'est… C'est hautement condamnable, évidemment, mais de ressortir le dossier à l'occasion d'un Xamax Lyon, beauf, effectivement, c'est un peu petit. Et puis sinon, pour Xamax, ben, c'est malheureusement pour cette équipe la confirmation qu'après un bon début, ben, ça devient très compliqué pour Xamax et que Lyon, ben, Lyon sait en profiter avec ses moyens et que voilà, ça va être compliqué pour Xamax de continuer sur ce qu'ils espéraient avoir mis en place en début de saison. Voilà, y a les limites de l'exercice sont là aussi pour les Neuchâtelois.
Mais Lyon, c'est une très jolie équipe. Hein.
Ouais.
C'est clair.
C'est très bien pour les clubs comme Lausanne. C'est très bien pour Lausanne, pour Servette.
Oui, oui, oui.
Pour donner du temps aux gamins, c'est super intéressant.
Ouais. Et puis, elle joue bien au ballon. Elle est intéressante. Il y a quelques petites lacunes, mais je trouve qu'elle a un rôle de trouble-fête très sympa à jouer dans ce championnat de Challenge League.
Bon, messieurs, vous connaissez les médias, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Du coup, Sion qui se balade, on ne va pas en parler. On va attendre qu'il y ait des problèmes en Valais pour leur mettre la tête sous l'eau. Mais on a 7-8 minutes pour parler de ce défi ultime. Stéphane, j'ai commencé avec toi. Young Boys, un champion de Suisse pas vraiment souverain et pas extraordinaire, va défier, c'est le défi ultime de toute équipe de foot actuellement, Manchester City, deux fois de suite en deux semaines. Bon, il y a le derby mancunien ce week-end, ça va peut-être faire tourner. Il y a le synthétique au Wankdorf qui va peut-être faire peur à Guardiola, mais quelle belle deux semaines pour le club berlin.
Oui, alors évidemment, au moment du tirage au sort, on ne donnait pas forcément très cher de la peau d'eBay face à City maintenant.
Pour moi, aujourd'hui.
Oui, alors, ouais, mais je ne sais pas, parce que franchement, actuellement, City, ce n'est pas encore le rouleau compresseur qu'on a pu connaître lors des dernières saisons. Alors évidemment, ça reste 2, 3, 4, 5 crans au-dessus d'eBay, évidemment, mais j'ai l'impression quand même que ce Young Boys-là, actuel, il est assez solide. Il perd pas contre Zurich. Ils auraient dû gagner. Enfin, j'ai suivi ce match d'un œil samedi. Voilà, ils auraient pu reprendre la tête de Super League. En plus, le synthétique, voilà, on en a parlé. Donc, si je devais miser une pièce sur Young Boys qui ne perd pas, honnêtement, je pense que ce serait peut-être le bon moment pour la miser. Alors, effectivement, dans deux semaines, en Angleterre, ce sera une toute autre paire de manches. Et puis, effectivement, au niveau de la composition, oui. Alors, que Guardiola fasse tourner ou pas, ça ne va pas changer grand-chose, à mon avis, sur la qualité de City à Young Boys. Mais peut-être que Guardiola garde ses grosses cartouches pour dans deux semaines pour assurer le coup, j'ai envie de dire, si au cas où il y a une mauvaise surprise à Berne.
Daniel, tu mets 10 balles sur eBay, ne perds pas, toi ?
Non, moi, je ne mets pas 10 balles sur eBay, ne perds pas. Je mets 10 balles sur City qui gagne. Je crois que les limites du football suisse, elles s'observent précisément là. Il peut bien y avoir un exploit, effectivement, de Lugano à Besiktas ou des choses comme ça. Ça peut encore arriver, mais la réalité, c'est que en termes d'intensité, à ce niveau-là, le football suisse n'est pas capable de rivaliser avec des équipes de ce niveau-là. Et j'espère me tromper, évidemment, pour le bien d'eBay, mais si City met un tant soit peu d'intensité et de pression, le jeu de possession de Guardiola, c'est un jeu de possession qui est surtout un jeu de transition quelque part, puisqu'il a la possession dans le camp adverse. Et ensuite, c'est le contre-pressing qui lui permet de récupérer le ballon quand il le perd et de partir immédiatement dans une rupture extrêmement chirurgicale. Donc, c'est très compliqué pour des clubs suisses de répondre à ce genre d'intensité. Et voilà, j'ai le souvenir de Servette dès que la Roma accélère un petit peu. Puis la Roma, c'est pas encore le Manchester City. Donc, dès que la Roma accélère, Servette vole en éclat. Servette n'est pas non plus Young Boys, d'accord. Mais ce que veut faire Young Boys, et c'est bien pour ça qu'il est au-dessus du lot en championnat de Suisse depuis longtemps, c'est qu'il a justement cette intensité par intermittence. Sur la longueur, face à une équipe qui lui oppose encore plus d'intensité et de rapidité dans le jeu, je doute que les Bernois puissent faire quelque chose.
André, malheureusement, je ne peux pas aller aux conférences de presse d'avant-match, mais c'est la question que j'aimerais demander à Guardiola. On ne l'a pas sous la main, donc je demande à toi, vu tes qualités footballistiques. Est-ce que vraiment le synthétique, à ce niveau de la compétition, c'est le même sport?
Non, et puis je pense que c'est le meilleur atout d'IB, ça veut tout dire. Hein. C'est ce terrain synthétique sur lequel tous les grands clubs qui sont venus jouer une fois au Wankdorf se plaignent, quoi. Ils disent que ce n'est pas le même sport, ils n'aiment pas. Eux, ils y sont. Ben City, comme la Juventus, je me souviens, était ulcérée quand elle avait dû jouer sur la peur de se blesser sur le synthétique, comme d'autres. Et voilà, c'est ce qui peut freiner un peu Manchester City. Peut-être qu'il va voir avec un ou deux de ses joueurs qui détestent le synthétique s'ils veulent rester au repos ou je ne sais pas. Mais oui, c'est le seul atout presque d'IB parce que sa défense, moi, elle ne me fait pas du tout confiance à IB. Si on avait une excellente défense bernoise d'expérience et tout, oui, tu peux espérer tenir un moment. Mais là, même au niveau suisse, je trouve qu'ils font beaucoup d'erreurs. Donc, le synthétique, c'est leur meilleur avis. Et je ne comprends pas pourquoi l'UEFA autorise encore des matchs de phase de poule de Ligue des Champions à se jouer sur cette surface, quoi.
Je comprends pas non plus. Et puis, franchement, effectivement, c'est pas le même sport pour plein de raisons. C'est dangereux au niveau des articulations pour beaucoup de joueurs qui ne sont pas confrontés au quotidien. Et je déplore effectivement le fait aussi que à ce niveau-là, ce ne soit pas des terrains en herbe. Il y a d'ailleurs dans le passé le souvenir encore, par exemple, d'une équipe comme Thun qui a bâti sa réputation. Ah, oui. En championnat ou même en Coupe d'Europe, grâce à un synthétique en mauvais état en plus, qui leur permettait de faire des surprises.
Stéphane, à part ça, pour des joueurs comme Mabenda et compagnie, entre l'exposition au plus haut niveau et la progression mentale et tactique, c'est des matchs hallucinants à vivre.
Ah oui, ben effectivement, on peut pas rêver mieux que de jouer City actuellement. Et je pense que c'est aussi ça qui va peut-être pouvoir donner ce petit quelque chose en plus si ils ont besoin d'être motivés encore plus. Ça, j'ai pas l'impression, mais c'est quand même ce genre de match. Tu joues chez toi, alors synthétique ou pas, effectivement, mais dans un stade totalement plein contre City, c'est un match que tu n'as pas envie de passer à côté, quoi. Donc, tu vas te transcender, comme j'ose l'espérer, ils doivent se transcender en Coupe d'Europe de manière générale. Mais franchement, si sur ce match-là, IB doit faire un exploit, ben, ce sera fait en toute connaissance de cause et on peut que se féliciter si ça arrive.
On se rappelle quand même qu'il y a 2 ans, Manchester United, un autre club tout totalement différent était venu se suicider à IB. Daniel, c'est pour ça aussi qu'on aime la Champions League et c'est ce qu'on aimerait jamais perdre, même si pour des raisons financières pour contrer la Super League, on en aura de moins en moins. La formule va changer l'année prochaine et c'est d'une tristesse folle.
Ben oui, voilà, sacrifier les principes de ce qui faisait la beauté quelque part de cette compétition, même sans faire le vieux con, ben c'était comme ça que ça se passait avant et maintenant ça va changer. On avait même vu par exemple un Sheriff Tiraspol s'imposer à Santiago Bernabéu face à Madrid. Ben voilà, ce genre d'échéance là, maintenant on va protéger les grands clubs puisque c'est le but du jeu, pour pas qu'ils créent leur propre ligue avec cette menace permanente. Ben voilà, on sacrifie une certaine idée du football sur l'autel d'un réalisme financier. Ouais.
Alors, ce sera ma dernière question pour André et Stéphane. Est-ce qu'on est des vieux cons ou est-ce qu'on aime le football?
On aime le foot. Alors ouais. Ça, il n'y a aucun doute. Alors. Ouais.
Ouais, alors, on aime le foot. Puis bon, moi, je suis un peu plus jeune que mes confrères. Donc, mais non, effectivement.
À peine.
Ouais, à peine.
Ça va. 30-40 ans, c'est rien.
Je chipote sur les mois.
C'est exactement ça. Non, mais effectivement, c'est un changement de formule qui déplaît à tout le monde et on se demande comment ça va pouvoir vivre, comment ça va se mettre en place, etc. Ça va être assez compliqué de se mettre dedans parce que ça fait tellement de temps que c'est comme ça. Et puis effectivement, Daniel l'a dit, voilà, encore une fois, dans 2, 3, 4, 5 ans, on va dire c'était mieux avant. Et c'est clair, c'était mieux avant. Voilà.
Bon, après on dira, c'était quand même super cette Ligue des Champions, ils l'ont inventée en 2024. Maintenant, on doit se taper l'Arabie Saoudia Super League et ça va être terrible. Mais on sera quand même en train de regarder. Merci messieurs, c'était super, le temps file. Bonne semaine de foot à vous. Bonne
Merci,
semaine.
ciao,
Ciao,
ciao.
merci.